C'est mercredi, il est un peu plus de 21h et vous êtes sur Radion. C'est le moment de retrouver un nouveau numéro de votre magazine littéraire. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Wagon Livre sur votre radio locale. Je vous propose ce soir de partager avec nous un entretien enregistré en public le 4 juin dernier dans l'ancienne école du hameau des Bois de la Madeleine située à 5 km de Vézelay. Michel Touvenot, un enfant du pays qui a grandi avec son jumeau auprès de ses grands-parents, les Sautereaux, Delphine et Amaury, qui tenaient le café du hameau des Bois de la Madeleine, eh bien Michel Touvenot raconte ce soir avec émotion l'univers pittoresque de son enfance à la campagne. C'est au cours d'une après-midi littéraire organisée conjointement par l'Association des Amis des Bois de la Madeleine et l'Association des Amis de Vézelay et de sa région qu'il a été accueilli dans le village de son enfance et qu'il a présenté le roman qu'il a écrit, roman intitulé « Delphine, un canon ». Pour ouvrir l'entretien, Michel Touvenot explique pour quelles raisons il a souhaité publier le récit quasiment autobiographique de sa jeunesse passée au Bois de la Madeleine.
Ben, je voulais écrire quelque chose pour mes petits-enfants. Alors, comme je trouvais que c'était un peu bête d'écrire un livre que sur la famille, j'ai dit, je vais faire un petit roman et inclure ma famille dedans.
J'ai l'impression que finalement, par pudeur, vous n'avez pas voulu écrire vos mémoires ou véritablement écrire une autobiographie.
Oui, c'est ça, c'est un peu ça.
Un peu par pudeur.
Oui, oui.
Et ce qui est surprenant, c'est que le titre de ce roman contemporain, c'est « Delphine, un canon » sur le mode exclamatif. Titre un peu surprenant, mais effectivement, c'est une ritournelle, c'est un refrain lancinant qui, effectivement, habite les lignes de ce roman du début jusqu'à la fin. Mais j'ai l'impression quand même que vous célébrez plus la grand-mère que le grand-père. La preuve, c'est que le prénom Delphine est dans le titre. Elle est vraiment au cœur du livre, tout en étant tout de même aussi plutôt discrète.
Je parle du grand-père quand même.
Hein. Vous parlez du grand-père Sautereau.
Oui, oui, oui.
Qui...
Mais c'est surtout la grand-mère qui était beaucoup plus vive au café, qui servait les clients et qui s'occupait d'eux.
Est-ce que votre vie a été romanesque, Michel Touvenot?
Je pense un peu, oui. Oui.
Et cette période de l'enfance, d'une enfance heureuse, dans une France qui réapprend un peu à vivre, hein, après les privations, les tickets de rationnement, sans doute aussi avec les privilèges du monde rural, je pense qu'on était plus heureux à la campagne qu'en ville.
À peine, hein. À peine. Les gens quand même tiraient la ficelle ici, hein.
Alors,
c'est pas facile.
Au tout début de votre roman, vous écrivez « Delphine, un canon, combien de fois l'as-tu entendu cette phrase ?» Et là, vous vous adressez à l'absente, dans un hommage. C'est un hommage aussi que vous rendez à cette grand-mère. « Tu étais toujours disponible et servais ce verre de vin avec le sourire. » Que ce soit pour une personne sympathique, un étranger, ou même un client sirotant son canon tout l'après-midi et requérant ta présence alors qu'il faisait si bon dehors. Pépé et Mémé, je vous remercie d'avoir été si patient avec nous. Alors là, le « nous », c'est peut-être un « nous » de modestie, mais j'ai bien compris que vous y associez également votre frère jumeau, Jean-Claude, qui est-il revenu? Il est là.
Il est là.
Nous n'étions pas des saints. Garder des jumeaux pendant la guerre, alors que vous aviez l'âge de la retraite, n'était pas chose aisée. Votre courage, votre abnégation, votre honnêteté et votre bon cœur ont quand même un peu d'éteint sur nous et nous ont bien servi dans la vie. Alors, l'éducation, l'encadrement, peut-être les coups de pied au cul, les engueulades?
Non, pas forcément, non.
Ça vous a vraiment bien servi dans votre vie, Michel Touvenot?
Oui, je pense, oui.
Et aujourd'hui, le regard que vous portez sur l'éducation de la jeunesse, vous voyez une différence colossale entre votre éducation ici, dans ce hameau des Bois de la Madeleine?
Ah, je ne connais pas le Bois de la Madeleine, comment ils sont éduqués, les enfants.
Mais globalement, à Orsay, autour de vous...
Globalement, je trouve qu'il manque quelque chose, quoi, dans leur éducation.
Alors, revenons au café que tenait donc le couple Sautereau, dont une... reproduction se trouve à l'extrême fin du livre. Je pense que c'est une aquarelle qui est reproduite
en noir et blanc malheureusement, mais qui montre une charmante maisonnette qui semble être un peu le lieu où palpite tout un village.
Oui, c'est ça.
Alors, la guerre, on l'a dit, est très présente. Ce couple, Delphine, donc la grand-mère, Amaury, le grand-père, le couple Sautreau qui tient ce café dans les bois de la Madeleine. D'ailleurs, les bois de la Madeleine, d'où vient ce nom de ce hameau et pourquoi les bois de la Madeleine vous...
Je pense que c'était des petites carrières de pierre qui étaient en forêt, qui ont donné le nom ici, parce que ces carrières devaient servir à la construction de l'église de la Madeleine à Vézelay.
Et le hameau des bois de la Madeleine.
Je ne suis pas sûr. Hein. Je pense que les bois de la Madeleine, ça tient ce nom de là.
Mais alors vous avez un certain culot, parce qu'à un moment dans le roman, vous écrivez, en parlant des bois de la Madeleine, vous dites que c'est un village quelconque. Or moi, je n'ai pas l'impression que c'est un village quelconque, parce que vous écrivez à la page 120 que dans le village, chacun sait qu'il est cousin avec tout le monde. Alors cette communauté au hameau des bois de la Madeleine...
Attention, entre le village et la communauté, il y a une différence quand même. Le village est quelconque, il est plat, il n'y a pas de monument historique, il n'y a rien. Bon,
il n'y a même pas de monument aux morts.
Non, il n'y a rien du tout.
Il n'y a pas de stèle.
Oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est quelconque.
Mais pourquoi chacun sait qu'il est cousin avec tout le monde? C'est une grande famille.
Oui, c'était une grande famille à l'époque. Surtout au jour de l'an, quand il fallait aller souhaiter les vœux à tout le monde. On faisait d'un bout du pays à l'autre, on s'arrêtait à toutes les maisons pratiquement.
Alors il faut dire que le hameau des Bois de la Madeleine se situe à 5 km de Vézelay. Mmh. Et puis il y a la mare. Alors la mare, c'était quand même un lieu d'amusement, le lieu de rencontre privilégié, où en hiver on pouvait aller faire toutes sortes d'activités.
Oui, on allait glisser sur la mare, oui. Et les hivers étaient rudes à cette époque-là, il y avait beaucoup de glace.
Et puis il y a l'école. Alors l'école où l'on se trouve aujourd'hui, avec effectivement les membres de votre famille devant nous. Micheline Forêt, la présidente de l'association des Amis des Bois de la Madeleine. Sur notre gauche, Pierre Maurice, président de l'association des Amis de Vézelay et de sa région. Le maire de Vézelay est peut-être encore parmi... Monsieur le maire, bonjour, est également là. C'est beaucoup d'émotions et aussi un hommage d'une communauté soudée, rassemblée autour d'un homme, Michel Touvenot, qui lui aussi a rendu à ce hameau ce qu'il a bien voulu lui donner durant toute son enfance.
Oui, parce que le village m'a donné quelque chose aussi.
C'était le temps de la fringale. On avait souvent l'estomac dans les talons pour arroser nos amygdales. Même le dimanche, on se passait de mouettes et chandons. Maman rêvait qu'elle avait une vraie cuisine, pendant que papa baritonnait aux capucines. C'était un temps chouette que ce temps-là. J'en ai les larmes aux yeux quand je pense à tout ça. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix. Tous les charmeurs chantaient la Tosca ou Carmen. On savait faire de la musique en ce temps-là. C'était le temps de la communale. J'usais ma voix presque autant que mes pantalons. J'étais presque un enfant de la balle. Je faisais partout le bonheur des récréations. Un jour papa a vendu de la margarine pour que maman puisse chanter dans sa cuisine. C'était entendu que ce temps-là. J'en ai les larmes aux yeux quand je pense à tout ça. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix. Tous les charmeurs chantaient la Tosca ou Carmen. On savait faire de la musique en ce temps-là. Mais peut-être qu'un jour, quand les poissons auront des ailes, peut-être bien qu'un jour, lorsque les poules auront des dents, papa viendra me chanter des chansons nouvelles. Certains soirs, quand j'ai le cœur gros, je les entends tous comme au temps. La 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 la, la rengaine. La 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 la. Allez. Allez, vas-y, papa. 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 Viens me chanter tes chansons nouvelles. Oui, rechante-moi toutes tes musiques de ce temps-là. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix. Tous les charmeurs chantaient la Tosca ou Carmen. On savait faire de la musique en ce temps. Faire de la musique en ce temps. Faire de la musique en ce temps-là.
On parle un peu de l'école puisqu'on y est. Oui. Ici, vous la retrouvez, vous revoyez élève dans cette pièce.
Ben oui. Moi, j'étais par là, mais plutôt par ici. C'est les grands, là.
Alors, puisqu'on est dans une école, on va parler d'abord vocabulaire. Parce que ce qui m'intéressait, pour moi qui suis un ancien professeur de lettres, ce qui m'intéresse aussi, c'est le vocabulaire. Il y a le patois, d'ailleurs, que l'institutrice parfois désapprouve, parce qu'il y a le sanglier. Quand un élève lui parle du sanglier, il faut bien sûr comprendre qu'il s'agit d'un sanglier. Voilà. Alors, j'aimerais que vous expliquiez à notre assemblée ce que signifie le verbe parpeléger.
Parpeléger, ben c'est cligner des yeux rapidement.
Très bien. Alors ensuite, quand on dit le cagnon.
Le cagnon, c'est l'arrière de la tête.
D'accord. Alors là, ensuite, là, c'est un vocabulaire beaucoup plus rustique. Que sont les roches? Les roches, R-A-U-C-H-E-S, les roches.
Je ne connais pas le nom latin de l'herbe qui s'appelle roche. C'est une herbe qui pousse au bord des ruisseaux et qui est très tranchante. Elle peut couper, vous la prenez par la main, elle vous coupe.
Hein. Elle peut même servir à rempailler une chaise.
Voilà, c'est ce que vous expliquez des chaises, des liens pour les moissons.
Alors, on y reviendra sur le café, mais parfois, les clients, en sortant du café du couple Sautreau, ils beurdolent un peu. Donc, beurdoler, cela veut dire...
Oui, c'est aller de travers.
C'est aller en zigzag, effectivement. Ou alors, on en a eu quelques-uns, des enfants qui rebeuillent,
oui.
Alors, rebeuiller, ça veut dire...
Rebeuiller, c'est remuer, quoi.
Bon, alors après, il y a du vocabulaire plus courant. Il y a les truffes. Je pense que tout le monde ici sait ce que sont les truffes.
Les pommes de terre.
Et alors, ce qui est incroyable, c'est... t'es une membrance. Moi, je ne connaissais pas. Moi, je ne suis pas iconais. Moi, je suis né dans le Haut-Doubs. Mais t'es ça, une membrance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, t'es une membrance?
Il n'y a qu'un individu qui parlait comme ça ici. Qui parlait de membrance. C'est lui qui a porté le nom, hein, parce qu'il l'a porté avec lui. On ne savait pas ce que ça voulait dire non plus.
Donc, en fait, c'était un mot...
Membrance, ça veut dire t'es pas grand-chose, t'es rien, t'es minable, quoi.
Et alors, à un moment, je crois que c'est lorsque l'artiste, un prestidigitateur également, voyant, vient au café, je crois que c'est Alexis, prénom,
voilà.
Il fait des tours de magie et évidemment, il épate un très grand nombre personnes par ses talents, par sa magie, ses dons.
Ses chansons, même.
Ses chansons, exact. Mmh. Et quelqu'un, donc, s'étant ayant été fasciné par les dons de cette personne, l'autre en face lui dit: t'es en admiration devant le premier arcandier venu. Or moi, arcandier, j'ai ouvert mon dictionnaire Le Robert et j'ai pas trouvé arcandier.
Ah non, arcandier.
J'aurais pu taper sur internet, mais je suis un peu basique et classique. Et
c'est je sais pas ce que ça veut dire exactement arcandier. Je sais pas, ça n'a pas d'explication. Ça veut dire arcandier, je sais pas. Claude, tu sais ce que ça veut dire arcandier? Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, un gars qui touche à tout, qui fait rien de bien.
Voilà,
un arcandier. Bon, un vocabulaire que nos auditeurs noteront et qu'ils pourront utiliser, peut-être.
Voilà.
Alors, vous viviez tout près de l'école,
puisque
le café Sautreau se trouve finalement pas bien loin. Maintenant, c'est une maison...
Un jet de pierre.
Qui est occupée par un jeune couple d'origine britannique, c'est bien cela. Et vous, ils arrivaient quand même d'arriver à la dernière minute.
Ah oui. Ça sonnait la cloche et on arrivait tout juste.
Quel souvenir vous gardez de la maîtresse? Parce que c'était une classe unique, il y avait les grands, il y avait les moyens, les plus petits.
Un bon souvenir. Elle faisait bien son travail.
Alors il y avait 25 élèves dans la classe unique à peu près.
Oh, on avait plus que ça. Pendant la guerre, on était presque 35-40.
Et alors on imagine les tables en chêne, les encriers en porcelaine blanche, ouais, hein, vous le dites dans le roman. Et puis vous parlez de Claudette, pour qui vous aviez une attirance que vous qualifiez d'enfantine.
C'était la fille de l'institutrice.
Et alors Claudette, ça a été votre premier petit amour?
Ah, peut-être, oui.
Alors vous n'aviez pas classe le jeudi à cette époque.
À cette époque, il n'y avait pas de classe le jeudi, non.
Et alors que faisiez-vous les jumeaux Michel et Jean-Claude
Ben, on était toujours occupés, hein.
Vous faisiez des bêtises ou est-ce que vous écoutiez les conversations des clients au café ou est-ce que vous alliez aider les paysans?
On allait aider, mais le soir quand même on écoutait les conversations.
Et aujourd'hui, rétrospectivement, les conversations des clients du café Sotreau, vous pensez qu'elles vous ont forgé un caractère, elles vous ont servi, elles ont été quelque part aussi, vous en avez tiré des leçons de morale?
Ah ben peut-être que ça a déteint sur nous, hein. On aimait bien parler politique après, parce que les clients parlaient beaucoup de politique.
Et pendant les vacances alors?
Ah ben les vacances, ça se passait dans les champs, dans les vignes, partout on avait besoin de notre coup de main, quoi.
Mais il n'y avait jamais d'ennui?
Non, on s'ennuyait jamais ici. Hein. On n'a pas le temps.
Il y avait des arbres, il y avait des oiseaux. Le blé devait se moissonner bientôt. C'est tellement beau l'été qu'on peut pas croire que c'est la guerre qui fait marcher l'histoire. Souvenez-vous, je n'aimais que vous, je n'aimais que vous. Les hommes sont arrivés par les labours. Ils ont pris position dans les faubourgs. C'est drôle d'être réveillé en pleine nuit et de se dire que la paix est finie. Souvenez-vous, je n'aimais que vous, je n'aimais que vous. C'est drôle d'être réveillé en pleine nuit et de s'enfuir avec un vieux fusil. Souvenez-vous, je n'aimais que vous, je n'aimais que vous. Puis ils ont occupé la préfecture, tué quelques otages le long d'un mur. C'était des paysans, un charpentier et la femme du petit vieux d'à côté. Souvenez-vous, je n'aimais que vous, je n'aimais que vous. Pour ceux qui n'ont pas été d'accord, il y a eu les barbelés, les miradors. Ça se passe toujours de la même manière, de tous les côtés du rideau de guerre. Souvenez-vous, je n'aimais que vous, je n'aimais que vous. Malin qui peut dire honnêtement où se sont passés ces événements. Mais méfions-nous qu'en y mettant des noms, on se trompe de lieu ou d'opinion. Souvenez-vous, je n'aimais que vous, je n'aimais que vous. Aujourd'hui il y a des arbres et des oiseaux. Et le blé doit se moissonner bientôt. C'est tellement beau l'été qu'on peut pas croire qu'une guerre pourrait faire basculer l'histoire. Souvenez-vous, je n'aimais que vous, je n'aimais que vous. C'est tellement beau l'été qu'on a envie de défendre la paille avec les billes. Souvenez-vous, je n'aimais que vous, je n'aimais que vous.
Il est beaucoup question dans le roman que vous avez écrit, Michel Touvenot, il est beaucoup question des chansons. Delphine à canon, je vous disais, c'est un refrain qui est omniprésent tout au long des pages de votre livre. Et puis, il y a un grand nombre de chansons. Et notamment des chansons de Morvandel, dont vous esquissez par écrit les débuts. Est-ce que vous pourriez nous chanter, peut-être nous fredonner?
Non. Je ne sais pas chanter.
Et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Est-ce que vous pourriez?
Non.
C'est de la mauvaise volonté, là.
Non.
Alors, il y en a une autre, c'est « Les prés, les bois, les champs et la forêt si belle ».
Voilà, c'est le Morvan, ça.
Et alors, vous parlez de la TSF, parce qu'évidemment, aujourd'hui, les jeunes gens regardent sans doute un peu trop leurs écrans d'ordinateur ou de télévision. Ça n'existait pas dans votre jeune temps. Et vous, c'était plutôt la radio, la TSF, on écoutait des...
Et puis, pas n'importe quelle TSF, hein. Ça chantait beaucoup avant de trouver un poste, hein. Et quand on avait trouvé un poste, souvent, il était un peu troublé. Il était un peu troublé, surtout pendant la guerre.
Et alors, il y a une chanson, « On boit le café au lait au lit ».
Ah oui, ça. C'était une chanson qui chantait sur la radio, ça.
Alors, bon, il y a Ignace qui est interprété, je crois, par l'artiste Alexis, qui passe dans la...
Oui.
Et puis, tout va très bien, Madame la Marquise aussi, qui est bien connue. Alors, les jeux sont... Il y a un côté un peu... Il y a un côté un peu Louis Pergaud. Côté un peu Guerre des boutons. Vous parlez du jeu des ciseaux. Vous pouvez expliquer à nos auditrices et auditeurs...
Ça, c'était pour les adultes, hein.
C'est quoi le jeu des ciseaux?
Ben, c'était... Non, c'était le jeu des ciseaux au 14 juillet, ça, que je vous parle.
Alors, oui, c'est ça. Mais si vous pouvez expliquer ce que le jeu des ciseaux...
Ben, vous aviez des lots qui étaient pendus à une ficelle, à un arbre. Et, bon, la personne qui devait couper avec les ciseaux lui bandait les yeux. Et il avançait comme ça, dans le vide, pour couper la ficelle, pour avoir le cadeau qui tombait de l'arbre.
Et alors, est-ce qu'on jouait au football à cette époque?
Non. On n'avait pas de ballon.
Il y a un moment, il semble que vous parlez quand même d'un ballon en vessie.
Ah oui, oui, mais ça, c'était... On jouait au point dedans, on mettait des coups de poing dans le ballon, parce que les coups de pied, ça ne marchait pas.
Parlons du café. Le père Sautreau, parce que c'est souvent ainsi qu'il apparaît dans le roman, c'est, ne l'oublions pas, la guerre est très présente, hein, très très présente. Aussi bien la guerre de 14, à travers notamment le père Sautreau, puisque votre grand-père avait fait la Grande Guerre.
Voilà.
Et... Ce qui m'a réconforté en lisant votre livre, c'est que finalement, on se rend compte que Delphine pouvait s'absenter, laisser des verres et des boissons sur le comptoir, et les clients passaient, se servaient,
et ils payaient.
Et déposaient une pièce sur le comptoir. Ça, c'est formidable.
Ça paraît extraordinaire aujourd'hui, mais c'était comme ça.
Alors, il y a bien sûr le café, et il y a l'arrière-salle, la grande salle à l'arrière
salle
du café, salle de bal, qui pouvait accueillir aussi des séances de cinéma, ou un artiste comme ça de passage. Et alors vous, pour que le parquet puisse permettre aux danseuses et danseurs d'exécuter les plus belles formes, que faisiez-vous?
Vous mettez de la paraffine dessus, des copeaux de paraffine.
Et la séance de cinéma, alors, parce que vous en parlez?
Oh, c'était rigolo, quoi. Et rigolo dans la salle et rigolo sur l'écran.
Vous parlez dans le roman de la diffusion, donc dans la salle de bal, l'entrée c'était 1 franc, on allait voir un film, notamment la Bandera, avec Jean Gabin, ce qui donne d'ailleurs un petit amusement, parce qu'il y a un gamin qui ne sait pas trop ce qu'est la Bandera, et il dit c'est finalement la bande de rats.
Bah, voilà.
Mais vous avez vu un film extraordinaire au cinéma d'Avalon.
Oui, c'est ça. La bataille du rail.
La bataille du rail. Je crois que c'est un film de René Clément, je crois, sur l'action de la résistance. Et tout de même, Delphine, elle est capable de gronder ses clients quand le ton monte les gens boivent un peu trop.
Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et il disait rien.
Et elle brandit la loi quand même, parce qu'elle dit qu'il y a un arrêté.
Il était affiché dans le café.
Et le père Sautreau, il était capable de sortir des clients
turbulents. Ah oui, il les prenait par le col et puis il les sortait dehors.
Mais alors, il y a ceux qui sont trop sous et qu'on doit ramener chez soi. Alors là, il faut trouver un moyen de locomotion particulier.
C'était la brouette le meilleur.
Et alors, les parties de cartes.
Oui.
Alors, les les jumeaux, finalement, vous avez appris aussi à jouer aux cartes.
Ah oui.
Et vous fumiez, finalement, vous offrez
Oui, on nous offrait le verre de vin, la cigarette et le jeu de cartes. Puisqu'on partait d'enfance, on partait avec des adultes, alors on faisait comme eux.
Près de la grève, souvenez-vous des voix de rêve, chantez pour nous. Minutes brèves du cher passé, pas encore effacées. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Il est si tendre que nos deux corps, rien qu'à l'entendre, tremblent encore. Et sans attendre pour nous griser, venez, venez danser. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là.
Il y a dans votre roman, dont je rappelle le titre, Delphine un canon, défile un nombre impressionnant de personnages. C'est normal, dans le café défile toutes sortes de personnes. Vous avez pris quand même un peu, je dirais un certain nombre de précautions au début de votre roman, puisque vous dites c'est la vérité, mais d'un côté j'ai pris des libertés avec la réalité. Quelle liberté avez-vous prise avec la réalité?
Il y a des anecdotes. J'ai fait parler les gens, c'est plutôt sur ce qu'ils auraient dit plutôt que ce qu'ils ont dit, quoi.
D'accord. Mais lorsque vous
regardant leur caractère quand même.
Lorsque vous parlez donc du père Chénu,
oui.
A-t-il existé ce père Chénu?
Oui, bien sûr.
Vous pouvez nous en parler parce que je trouve assez formidable.
Il habitait, pas loin de Monsieur et Madame Laberge. C'était la maison de Monsieur Laberge.
Et il avait quand même une activité particulière.
Il était à retraite.
Oui, mais.
Je sais pas,
Mais vous dites du père Chénu qui chasse les couleurs.
Ah non, il les chassait, oui.
Il mangeait les serpents, les renards, les hérissons et même les putois.
Oui.
Alors, vous parlez du père Néter Peller. L'ai-je bien prononcé?
Oui. Néter Peller, c'était le taxi, chauffeur de car. Enfin, c'était une camionnette à l'époque. C'était même pas un quart.
Alors, il y en a plein des personnages. Hein. Bon, il y a l'oncle, il y a votre oncle, Julien. C'est... Mmh. Là, vous n'avez pas changé le prénom ?
C'est le père à eux. Non, non.
D'accord. Richard le Forestier.
Là, j'ai changé le nom.
Vous avez changé les noms.
Oui.
Le garde champêtre Célestin. Il y a le facteur André, son fils Gégé.
Oui, ça, il n'a pas changé, là.
Vous parlez de Catholico.
Catholico a existé aussi.
Alors, Catholico, lui, il dormait quand même l'hiver près de ses moutons et il habitait à la Borde.
À la Borde, une ferme, oui, isolée.
Il y a Charlot le Charbonnier dans sa petite cabane en pleine forêt.
Oui.
Et alors, bon, vous parlez du père Zouave.
Ah, le père Zouave, quelqu'un, hein.
Alors, c'est qui, le père Zouave?
C'était le père Zouave, on l'appelait comme ça.
Parce qu'il avait sans doute appartenu à...
Ah oui, on pense que c'était son service militaire qui avait déteint sur le nom qu'il a eu après. C'était Arnoux, son nom.
Concernant le café, sur le café et sur la fonction, ce qui pourrait être intéressant aussi avec votre roman, c'est d'étudier sans doute la fonction sociologique du café dans cette société rurale des années 46-47. Vous écrivez, « Cela peut paraître étrange qu'une grande partie de la vie des habitants masculins du village, parce que les femmes ne passent pas tellement au café, ça aussi, je crois qu'il faut le dire à nos auditeurs, en 2011, les femmes ne viennent pas au café, c'est un monde viril.
Les rares fois où elles venaient chercher leur mari.
Oui, c'est vrai. Donc, je relis, pardonnez-moi Michel Thumneau, cela peut paraître étrange qu'une grande partie de la vie des habitants masculins du village se déroule au café, la société de consommation n'ayant pas encore transmis ses valeurs. Les hommes se regroupent dans ce local pour y retrouver des amis, décharger leur cœur des soucis quotidiens, organiser leur emploi du temps, faire des confidences, se reposer à l'abri devant un amical canon, sans pour cela être des ivrognes.
Oui, c'est vrai.
Et vous écrivez, page 29, attention, j'ai des sources, Michel Thumneau.
Oui.
Vous écrivez, le vin, c'est bien connu, il aiguise la vue, rend gai et facilite les échanges et les bonnes relations.
Mais j'ai pas dit la quantité, hein.
Et aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même une sorte de bien-pensance peu étouffante qui nous interdit quelques abus, et notamment celui, et on en parle ici dans une région de vignerons, vous allez choquer du monde, là.
Oh non.
Non, mais je vous taquine un peu. Mais on boit beaucoup quand même dans ce roman.
Oui, mais c'est normal, c'est un café, alors.
Certes. Oui, mais on peut boire autre chose qu'un canon, justement.
Mais c'est encore le moins méchant, le canon. C'est moins méchant que les boissons alcoolisées autrement. Parce qu'un canon pouvait durer une demi-heure. La personne qui le buvait pouvait le faire traîner.
We'll be right back.
Je reviens sur Gaston. Gaston, c'est... Là, vous êtes dans la fiction. Vous l'avez inventé pièce.
Ah non, Gaston, il a existé. Hein.
Il a existé.
Mais c'est son nom qui n'est pas le même.
D'accord. Donc, ce Gaston, qui est un brave homme, qui a donc été prisonnier en Allemagne, si j'ai bien lu.
C'est vrai.
Ou dans une ferme où il a,
en Silésie,
où il a rencontré une blonde allemande,
ça, c'est vrai,
Ida.
Lotta.
C'était Lotta. Vous en étiez là. Et il a vraiment donné le prénom de cette belle allemande à son,
ah,
à son jument.
Ah oui, oui, oui.
Ce qui peut paraître surprenant.
Ah non, mais c'est vrai. Hein.
Il me l'a raconté, m'a dit.
Et donc ce Gaston, il y a vraiment eu une... Gaston, c'est un homme qui recherche quelque chose. Et moi, j'ai pensé que c'était une projection psychanalytique de vous-même.
C'est possible.
Michel Touvenot, derrière ce Gaston, il est l'homme qui a toujours cherché quelque chose.
Ah, c'est possible, qui sait.
Il recherche la femme et le désir. Il recherche une statuette de femme.
Non, mais au départ, il ne cherchait pas la femme. Il cherchait la statuette au départ.
Il cherchait la statuette. Mais oui, Ida...
Oui, vous parlez d'Ida. Ida, c'était l'allemande.
D'accord. Et à la fin, le dénouement est heureux.
Oui.
Mais on ne dit rien. Sinon, on vend la fin du roman et ça enlèverait tout son sel à l'histoire.
C'est celle qu'on veut s'imaginer.
Et puis, il y a quand même cet archéologue.
Ah oui.
Et vous faites rencontrer deux mondes qui, culturellement, n'étaient pas faits pour se rencontrer.
Oui. Ça a mal terminé aussi.
Mais là aussi, j'imagine qu'il y avait une part quand même de votre propre vie projetée.
C'est possible. Comment le savoir?
Et alors, ce qui est formidable pour les locaux, ce qui est pas mon cas, mais pour les gens qui ont connu cette période un peu ancienne, c'est aussi un hommage à Vézelay et à sa région. Hommage, effectivement, à vos grands-parents, hommage familial, hommage au hameau des Bois de la Madeleine, et puis hommage à Vézelay et à sa région, puisque finalement, avec l'archéologue...
Ygrotte d'Arcy...
Effectivement, vous rendez hommage à tout le patrimoine, les richesses architecturales.
Ah oui, on a fait un petit tour.
Autour. Alors, on déambule aux côtés de Gaston et de son archéologue qui se prénomme Alice. Bon, à Vedla, ça a été dit, on dit Vedla. Vedla, c'est Vézelay. Donc, les ruelles de Vézelay, ses vieilles maisons, la maison des colons. Il y a même la maison de Théodore de Bèze qui apparemment, où est né Théodore de Bèze, qui abritait une charcuterie.
Oui, une boucherie-charcuterie.
Alors, vous parlez bien sûr de la basilique, de ses reliques, de la crypte. Vous parlez du vieux puits de Vézelay qui avait été comblé et qui était effectivement un puits de secours en cas de...
Mais on ne sait pas s'il y a avec ça.
Vous parlez de l'église de Saint-Père, du château de Bazoches, que Louis XIV offrit à Vauban en remerciement de ses victoires. Mailly-le-Château, puis bien sûr les grottes d'Arcy-sur-Cure.
Voilà.
Et vous parlez ensuite de certains lieux d'Avalon. Vous parlez du café chez Bébert.
Oui. Il existait. Hein?
Chez Bébert, vous racontez... Alors, vous aimez beaucoup les animaux, Michel Touvenot. Vous êtes très sensible.
Oui. J'aime bien les animaux, oui.
Il y a un chapitre que j'ai trouvé magnifique et pourtant qui est terrible.
C'est le lait, le petit chat qui boit dans l'écuelle. Non?
Je disais un passage terrible. C'est le cochon qu'on tue.
Ah oui, ça c'est vrai. C'était comme ça.
Oui. Et justement, en parlant du café chez Bébert à Avalon, vous vous souvenez, apparemment, c'est un souvenir d'enfance d'un petit cochon qui...
Un cochon qui était élevé avec notre chien. Quand on a pris le chien, il était tout jeune aussi, comme le cochon.
Et avez-vous vraiment eu un chaton que vous avez nommé Bikini?
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Alors j'aimerais que vous expliquiez aux auditeurs pourquoi vous l'avez appelé Bikini.
C'est parce que la bombe atomique était tombée sur Bikini ce soir-là.
Et vous savez que justement le vêtement, c'est Louis Réard, le couturier, qui a créé le Bikini, qui est devenu donc ce vêtement pour femmes, avait lancé le Bikini avec un slogan explosif.
C'est pas le même.
Puisque c'était « Ce qu'il cache est aussi explosif que ce qu'il montre ».
Voilà,
c'était le
Ah, moi c'était moins explosif.
C'était moins explosif. Alors vous parlez de la librairie Pichenot à Avalon.
Oui.
C'est l'équivalent de la librairie Voileau ou elle était...
Ah, je ne sais pas. C'était Pichenot.
C'est ça.
C'est ça.
Et vous parlez d'un magasin que peut-être certaines et certains ont connu à Avalon.
Varé Poivré.
Le Pauvre Diable.
Le Pauvre Diable, oui. C'était Varé Poivré.
Et vous parlez de la biscuiterie Razou.
Ah, ben ça, c'était bon aussi. Oui. Puis je vous parle des trains aussi, des trains à vapeur.
Oui.
Je vous parle aussi, comment ça s'appelle ? Il y en a un autre, un magasin. Je vous ai parlé qu'on achetait des sous-vêtements. Le nom ne me revient pas, ça fait rien.
Donc, il faut expliquer et rappeler à nos auditeurs, parce qu'on va être obligé aussi de mettre un terme à cet échange. C'est aussi, j'imagine, pour nous, pour moi, à 40 ans, lire votre roman. Moi qui suis né en milieu rural, mais dans le Haut-Doubs, c'est vrai, il y a une odeur de foin, il y a une chaleur humaine, il y a une solidarité, il y a une sorte de fraternité entre les êtres qui, malheureusement, c'est terrible à dire, semble avoir disparu un peu de notre, malheureusement, de notre société. Il y a une vraie nostalgie dans votre livre.
Oui, peut-être.
Allô? Allô, allô, James. Quelle nouvelle, absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, Martin, quelle nouvelle, ma jument grise, morte aujourd'hui. Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit?
Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Pascal, quelle nouvelle? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé?
Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla, madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Lucas, quelle nouvelle? Notre château est donc détruit? Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit?
Eh bien voilà, madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise, comme si le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château, qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie, et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Parler de la messe en latin. Vous êtes allé beaucoup à la messe?
À tous les dimanches.
À pied, donc?
À pied d'ici à Vézelay.
Donc il y a 5 km, hein, rappelons-le. Et alors, ce que j'ai trouvé cocasse, c'est que finalement, quand on meurt au bois, au hameau des Bois de la Madeleine, on suit le cortège, on fait les 5 km à pied derrière le corbillard, voilà, jusqu'à la basilique.
Voilà, c'est ça.
Et arrivé à la basilique, certains vont boire un verre et attendre la sortie des... Ah bah oui. Récupère le...
Ah oui, bien sûr. Ceux qui ne veulent pas rentrer dans l'église, c'est encore se pratiquer comme ça.
Alors, Michel Touvenot, est-ce que vous écrirez un autre livre?
Oh, c'est possible.
Vous avez déjà le thème?
Ah oui, mais je l'ai déjà écrit, mais je ne sais pas.
Ah, vous l'avez déjà écrit?
Vous n'avez pas le faire publier, ça coûte cher aussi. Hein.
Et vous n'avez pas pensé à trouver un éditeur?
Un éditeur vous fait en combien d'exemplaires aussi? C'est tout de suite 1000, 2000, 3000 exemplaires. Et si vous faites fausse route, ça vous coûte cher. Hein.
Michel Touvenot, avant de nous quitter, donc je rappelle le titre de votre roman, Delphine, un canon, avec un point d'exclamation, parce que c'est dit avec, avec fougue ou avec injonction. Comment peut-on se procurer votre livre?
J'en ai pas fait tirer beaucoup. Hein.
Alors, donnez-nous une adresse ou un numéro de téléphone ou une adresse internet.
Non, c'est moi qui les détiens tous.
Il y aura bien quelques petits dépôts quelque part dans
Non, maintenant je le restais là, je crois qu'il y a à peu près 50.
Tout est là. Donc finalement il faut sauter dessus rapidement. Michel Touvenot, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions pour Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Et donc je rappelle le titre de votre roman, mais derrière lequel, finalement, se lise la nostalgie, l'amour de la famille, de ses grands-parents, l'hommage rendu à celle, Delphine, et celui, à Maury, qui ont pris soin de vous et de votre jumeau dans une période
très difficile. Oui, très difficile.
Et qui a donné un digne monsieur plein de valeurs et qui rend hommage à ses grands-parents et au hameau qui l'a accueilli.
Ah oui, moi j'aime les valeurs, de toute façon.
Alors sur cette parole positive, on va se quitter. Je vous remercie. Merci. Michel Touvenot. Merci également au public. Avant de nous quitter, je vous rappelle le titre du roman de Michel Touvenot, Delphine, un canon. Il en a été donc largement question au cours de l'entretien qui vous a été proposé ce soir sur Radion dans l'émission littéraire Wagon Livre, entretien enregistré en public le 4 juin dernier au hameau des Bois de la Madeleine au cours d'une après-midi littéraire organisée conjointement par l'association des Amis des Bois de la Madeleine et par l'association des Amis de Vézelay et de sa région. On embrasse Micheline Forêt et on salue très chaleureusement Pierre Maurice, les présidents respectifs de ces deux associations. Avant de vous communiquer le programme de la semaine prochaine, je voudrais simplement vous préciser que l'ancien ministre socialiste de l'Intérieur, Daniel Vaillant, dédicacera son dernier livre à Avallon, à la librairie Boileau, samedi 25 juin prochain, dans la matinée, à partir de 10h. Daniel Vaillant, qui est actuellement maire du 18e arrondissement parisien depuis 1995, a fait paraître un livre qui a pour titre PS, 40 ans d'histoire du congrès d'Épinay à nos jours, et ce livre paraît aux éditions de l'Archipel. Et bien donc l'ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Jospin dédicacera donc son livre à la librairie Boileau samedi 25 juin à partir de 10h. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi 29 juin à partir de 21h pour une émission de compte-rendu du Salon du Livre de Tonnerre qui s'est tenu le 5 juin dernier. Merci de votre fidélité. À très bientôt dans Wagon Livre. Bonne soirée. Au revoir.